Jacques, chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Et nous croyons, nous savons, nous avons la certitude qu'effectivement, notre prière a une grande efficacité. Sinon, nous ne serions pas ici. Tout simplement, notre prière a une grande efficacité parce que notre Dieu est tout-puissant. On peut prier des hommes, on peut supplier des hommes, mais les hommes ne peuvent rien ou ne peuvent finalement pas grand-chose. La force de la prière vient de celui vers à qui l'on adresse. Et nous savons qu'en priorité, notre prière, nous l'adressons à notre Dieu et nous l'adressons dans le nom de Jésus. Et nous nous souvenons de ces paroles de Jésus qui dira que tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, eh bien croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, croyez que vous l'avez reçu. Nous ne doutons pas et nous avons expérimenté bien des fois que prier Dieu, élever notre âme vers Dieu, témoigner nos besoins à notre Dieu est quelque chose qui nous est précieux parce que ça nous communique la paix, mais que notre Dieu, eh bien, entend les choses. La volonté de notre Seigneur, c'est que nous soyons profondément heureux. Alors, devant ce constat, on peut se poser cette question. Seigneur, je te prie. Je te prie bien des fois. Je te prie souvent. Et il y a des thèmes qui sont récurrents. Et pourtant, j'ai l'impression que tu n'entends pas. Il y a ce thème qui est sur mon cœur et j'ai l'impression que tu ne réponds pas. Tu vois ce sujet que je te présente jour après jour et finalement, j'ai l'impression que la porte du ciel est fermée ou alors que tu as mis tes boules quies parce que je ne vois rien venir. On a coutume de dire, et il y a des réponses que l'on connaît bien, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et c'est vrai, c'est une réalité. Dieu, eh bien, prépare les choses et il faut du temps. C'est vrai, c'est une réalité. Mais il y a certains éléments qui ne dépendent que de nous, finalement. Et peut-être que, et je dis peut-être, et vous pouvez remarquer que je prends des pincettes et j'insiste lourdement sur ce terme, il y a peut-être des choses qui bloquent en nous et qui finalement bloquent la bénédiction. On se souvient de ces textes de l'Ancien Testament qui reviennent de manière fréquente lorsque Dieu dit que, eh bien, si le peuple revient vers lui, alors il fera venir la pluie de l'avant-saison et la pluie de l'arrière-saison, c'est-à-dire la bénédiction. Et il se peut que dans nos vies, que dans nos cœurs, certaines attitudes aient pu, à un moment ou à un autre, empêcher la bénédiction. Ce n'est pas du tout de la culpabilisation, et je m'en voudrais si vous ressortiez de ce lieu en vous disant, ben finalement, c'est de ma faute si je ne suis pas exaucé, c'est parce que je suis mauvais, c'est parce que... Non, ce n'est pas du tout le principe. Mais juste éclairer certaines zones qui sont susceptibles d'eux et vous entraîner dans une réflexion saine qui a vocation à finalement examiner nos cœurs afin de voir si nous-mêmes, eh bien, nous ne détenons pas certaines clés de la bénédiction. Le premier blocage qu'il peut y avoir se décline en deux temps et je l'ai qualifié de la manière suivante, l'indifférence. L'indifférence, premièrement, aux avertissements de Dieu. Le livre du Proverbe, au chapitre 1er, au verset 28, dit « Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. » Le livre de Zacharie, au chapitre 7 et au verset 13, dit « Quand il appelait, c'est-à-dire Dieu, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. » Nous savons que notre Dieu nous parle. Et Dieu a parlé à son peuple à bien des reprises afin qu'il revienne de l'idolâtrie, afin qu'il revienne dans des voies saines, afin qu'il revienne dans des voies justes, afin qu'il revienne dans ce qu'ils auraient dû être et dans ce qu'ils auraient dû vivre, la vie du peuple de Dieu. Nous savons qu'il a disposé des prophètes, nous savons qu'il a donné des rois intègres, des rois justes, nous savons qu'il a donné sa loi. Et pourtant, Dieu, au travers de ses hommes, au travers de ses commandements, a parlé. Et là, le livre de Zacharie, notamment, nous dit « Quand il appelait, c'est-à-dire Dieu, ils n'ont pas écouté. » Et je me suis demandé, je me suis interrogé si dans ma vie, à certains moments, j'avais toujours été bien attentif à la voix de Dieu. Je me suis demandé si dans ma vie, j'avais écouté les commandements, écouté les avertissements de Dieu. Et ce texte est clair, et le texte que l'on a lu précédemment dans le livre des Proverbes l'est également. Il se peut que les vannes des cieux soient coupées, que les vannes des cieux soient bloquées, soient gelées, parce que nous, de notre côté, nous sommes susceptibles, à certains moments, de ne pas avoir entendu ce que le Seigneur voulait nous dire. Alors, nous prions, nous appelons, mais non pas que le Seigneur boude, non pas que le Seigneur nous fait la tête, mais il nous dit, écoute-moi d'abord, et moi je t'écouterai après. Fais attention à ce que moi je veux pour toi, et alors je ferai venir sur toi la pluie de l'avant-saison et la pluie de l'arrière-saison. Lorsque Dieu a parlé à son peuple, il ne l'a pas fait à une seule occasion. Mais avant la déportation, il y a eu bien des avertissements qui ont été lancés par les prophètes. Ici, il ne s'agit pas d'une désobéissance ou d'une indifférence épisodique, mais il s'agit d'une indifférence récurrente. Mon frère, ma sœur, est-ce que dans ta vie, Dieu t'a donné plusieurs avertissements? Et est-ce que par négligence, est-ce que par manque de foi en disant « mais je ne peux pas vivre une telle chose, ce n'est pas pour moi », est-ce que, à cause des occupations multiples que tu as pu avoir, tu as fermé ton cœur? L'auteur aux Hébreux dira « si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur ». La voix de Dieu peut venir en nous comme une douce ritournelle, mais nos oreilles restent fermées. Est-ce notre cas? Avons-nous été quelque peu indifférents, quelque peu négligents aux avertissements ou, j'allais dire, aux exigences, aux conseils que Dieu nous a promulgués, aux conseils que Dieu nous a donnés? Je relis ce texte du livre du prophète Zacharie. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Première phase de l'indifférence. La seconde, c'est le manque de miséricorde ou l'indifférence vis-à-vis de son prochain. Le livre des Proverbes, au chapitre 21, au verset 13, dira la chose suivante. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Je le relis. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Il faut être franc, nous attendons énormément de choses de la part de Dieu. Souvent, ça m'arrive de m'imaginer sur le trône à la place de Dieu et à écouter les milliers de millions de milliards de prières qui montent. Il faut qu'il y ait une sacrée mémoire, hein. Vous imaginez tout ce qu'il peut entendre? La somme d'informations, la somme de requêtes qu'il peut entendre? Ça doit être tout simplement colossal. Heureusement qu'il est Dieu. Heureusement qu'il est Dieu. Et qu'il connaît toutes choses, qu'il est omniscient, qu'il est omnipotent. Heureusement. Et finalement, on attend beaucoup de Dieu, on attend beaucoup des autres aussi, entre parenthèses. Et nous avons raison de beaucoup attendre de Dieu, puisque son ruisseau est plein d'eau et que sa volonté est de dispenser ses biens et ses bontés. Mais on a parfois tendance à oublier, parce que nous sommes quelque peu étourdis, que Dieu attend des choses de notre part. Dans le livre des Actes des Apôtres, on a ce passage qui concerne Jésus, qui dit la chose suivante, Actes chapitre 10, verset 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Quel rapport avec ce que je dis? Tout simplement, l'Église sur terre, c'est quoi? C'est le corps de Christ. Et nous sommes les mains de Jésus, nous sommes les yeux de Jésus, nous sommes la bouche de Jésus, nous sommes les pieds de Jésus, et de la même manière que Jésus allait, l'Église est appelée à aller. De la même manière que Jésus a appelé ses disciples, eh bien nous sommes appelés à faire des disciples de Jésus, non pas des disciples de nous-mêmes, mais des disciples de Jésus, à les enseigner, à ce qu'ils soient baptisés, et à les enseigner, à leur enseigner à obéir, eh bien, à tout ce qui a été prescrit. Et c'est ce que Jésus attend de nous. C'est ce que Jésus souhaite pour nous. Et à partir du moment où, pour une raison ou pour une autre, nous oublions cet objectif-là, et où nous nous centrons sur nous-mêmes, où nous oublions d'écouter la voix du pauvre, la voix du malheureux, la voix de celui qui souffre, parce que nous sommes focalisés sur nos propres besoins, alors peut-être que le Seigneur, pour nous faire réagir, peut dire « Hé, mon garçon, occupe-toi un peu des autres. Occupe-toi un peu des autres. Autour de toi, tu as des hommes et des femmes qui souffrent, qui ont besoin de ton sourire, qui ont besoin de ton oreille, qui ont besoin de l'aide que tu peux leur apporter de différentes manières. Si tu veux que je m'occupe de toi, alors ouvre ton cœur et ouvre tes oreilles au cri du malheureux. » Ce n'est absolument pas du chantage, mais parfois il nous faut un détonateur, il nous faut un déclic, il nous faut un électrochoc, de manière à réaliser un petit peu ce que nous sommes. Cela est corroboré par ce texte des évangiles qui dit qu'il sera donné à celui qui donne, mais à celui qui retient, il sera ôté même ce qu'il n'a pas. On s'en souvient de ce texte. À partir du moment où je garde dans ma main, le Seigneur fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, il n'y a aucun problème. Mais il se peut que certaines choses, à certains moments, restent dans sa main, parce que nous oublions de tendre notre oreille aux cris de ceux qui sont malheureux. Nous attendons beaucoup de Dieu. Seigneur, c'est vrai que je te demande beaucoup. C'est vrai que nous te demandons beaucoup. Mais qu'est-ce que tu attends de nous? Ouvre mon cœur. Ouvre mon être tout entier. Afin que je puisse vraiment être disponible et accomplir ce que toi tu aurais accompli à ma place. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, accompagne-moi. Fermer son oreille et retenir sa main quand on le peut, vous savez ce que c'est? C'est un péché. Je ne dis pas trop fort parce que ce n'est pas la mode. L'apôtre Jacques nous dit au chapitre 4, verset 17, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Il n'est pas trop souvent commenté ce texte. Pour nous, le péché, c'est plutôt faire ce qui est interdit. Lorsque l'on ment, on commet un péché. Lorsque on commet un adultère, on commet un péché. Lorsque l'on vole, on commet un péché. Ok. Mais là, l'apôtre Jacques nous dit que lorsque, entre nos mains, on a la possibilité de faire le bien, lorsqu'on sait le faire et lorsqu'on peut le faire, et qu'on ne le fait pas, alors nous commettons un péché. Ça élargit encore notre responsabilité. Ça élargit encore la nécessité d'être vigilant. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de règle. Autant ce qui est interdit est à peu près codifié, autant faire le bien, c'est tellement vaste. Faire le bien, c'est quelque chose que l'on ne peut pas lister. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Seigneur, aide-moi et éclaire-moi si dans ma vie, eh bien à certains moments, j'ai retenu la main alors que je n'aurais pas dû la retenir, J'ai retenu ma langue alors que je n'aurais pas dû le faire. Et peut-être, pardonne-moi si je me suis centré sur moi-même, sur mes propres besoins, et en oubliant complètement qu'à côté de moi, il y avait des hommes et des femmes. Ainsi, un blocage éventuel pourra être levé dans le ciel et la bénédiction pourra tomber. Deuxième cause, entre guillemets, à la non-bénédiction ou à non-exaucement de nos prières, c'est l'instabilité. L'instabilité, premièrement, dans ce que nous demandons. Et on connaît bien ce passage de l'Épître de Jacques, chapitre 1er, versets 6 et 7, lorsqu'il est dit, à propos de celui qui manque de sagesse, qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Pourtant, cet homme, il demande. Cet homme, il est peut-être converti depuis des années et des années. La volonté de Dieu est de lui donner la sagesse. Puisque dans le verset qui précède, il dit que Dieu la lui donnera sans, assurément et sans aucun jugement. Cet homme prie. Cette femme prie. Mais l'apôtre Jacques, avec son langage très direct, dira qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'il est instable dans sa foi. Alors me direz-vous, ça veut dire que lorsque l'on prie, on n'a pas le droit de douter. Ça veut dire que le doute est totalement proscrit de notre foi, que le doute est totalement à bannir, que je n'ai pas le droit de douter, sinon je ne peux pas être exaucé. Non, ce que dit l'apôtre Jacques, c'est que on ne doit pas basculer sans cesse d'un extrême à un autre. On ne doit pas être comme une boule de flipper qui est guidée, notre foi ne doit pas être comme une boule de flipper guidée par les événements extérieurs, mais elle doit garder un cap. Même si à certains moments, il peut lui arriver de dévier quelque peu, elle doit garder un cap. On a l'exemple dans l'Ancien Testament d'un homme qui a fait preuve d'une foi remarquable, mais d'une foi qui pouvait être prise de doute ou du moins d'incompréhension. Il s'agit du prophète Habacuc. Il va introduire son livre, Habacuc, vous savez ce que ça signifie ? Embrasser. C'était un homme qui avait une communion avec Dieu. Et il va commencer son livre en disant, je ne comprends pas. Je vis dans une société méchante, mauvaise, mais que fait Dieu ? Que fais-tu ? Et là, Dieu va lui répondre, il dit, t'inquiète pas Habacuc, je suis en train de préparer dans ta génération quelque chose que tu ne croirais pas si je te le disais. Habacuc est content, génial, fabuleux. Et Dieu va lui donner la révélation et dire, ben voilà, je vais faire venir les Assyriens et puis je vais déporter tout le peuple. Habacuc va se remettre à discuter avec Dieu. Vous lirez le premier chapitre. Et va lui dire, c'est un dialogue en fait, il faut le comprendre comme ça. Il va lui dire, mais comment un Dieu pur comme toi peut-il se servir d'hommes et de moyens aussi abjects que les Assyriens ? Comment ? Et là, le cœur d'Habacuc ne comprend plus rien. Pourtant, il reste dans la foi. Et pour nous, dans nos moments de prière, dans nos vies spirituelles, parfois, on ne comprend plus rien. Comment, mon Dieu, peux-tu permettre ça ? On ne comprend pas. Et Habacuc ne va pas lâcher le morceau. Chapitre 2, il va commencer en disant, « Eh bien, moi, je monterai au belvédère. Je monterai à mon poste. Et puis, je questionnerai Dieu. Et puis, il me répondra. » Waouh ! Il se reprend en main, Habacuc. Et puis, au début du chapitre 2, au milieu du chapitre 2, il va y avoir cette révélation. Le juste vivra par la foi. Révélation qui va servir plus tard à Luther, notamment lorsqu'il la retrouvera dans l'Épître aux Romains. Vous voyez la démarche d'Habacuc. il n'a pas douté. Du moins, il n'a pas été emporté par tous les flots, par toutes les questions. Mais il a conservé sa ligne directrice de dire « Je me tiendrai devant mon Dieu afin qu'il pourvoie, afin qu'il m'explique, afin qu'il éclaire mon cœur. » L'homme que nous décrit Jacques, lui, est ballotté au gré des circonstances, au gré de ses événements. Un coup, il fixe les regards sur Dieu, un coup, il fixe les regards vers le monde. Un coup, il fixe les regards vers Jésus, un coup, il fixe les regards sur lui-même. C'est plus des hauts, c'est plus des bas. Mais c'est une somme. C'est une somme d'avancée et de recul. Dans nos vies de prière, nous avons le droit d'avoir des creux, nous avons le droit d'avoir des peurs, nous avons le droit d'avoir des craintes, nous avons le droit d'avoir des questions, d'avoir des incompréhensions. Et David, dans les psaumes, parlera de ces incompréhensions à Dieu. Mais à la fin des psaumes, il reviendra toujours dans une position de foi. Tu es mon rocher, tu es ma forteresse, et tu me feras triompher. Être stable dans ce que nous demandons. C'est ce que Jésus nous enseigne dans l'évangile de Luc, au chapitre 18 et au verset 1, avec cette veuve qui va aller auprès de ce juge inique et qui va lui casser les oreilles. Dieu n'ayant rien à voir avec un juge inique, mais cette femme savait ce qu'elle voulait. Elle était déterminée. Et je crois que ce que l'apôtre Jacques nous enseigne, c'est d'être déterminé dans ce que nous demandons à Dieu, afin véritablement, eh bien, de pouvoir expérimenter sa grâce. Deuxième élément de la stabilité, dans nos sentiments. Toujours dans cette même épître de Jacques, au chapitre 4 et au verset 3, il écrira, « Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Ça, c'est un sujet qui est extrêmement important. C'est que ce qui sera exaucé, c'est ce qui est dans la volonté de Dieu. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Vous avez pu noter, selon sa volonté. La prière, je le dis souvent, mais je veux bien le fixer dans votre image, dans votre cœur. Ce n'est pas une pièce que l'on met dans un distributeur, où on appuie et la bénédiction, elle tombe. Du tout. Notre relation avec Dieu n'est pas basée là-dessus. Dieu n'est pas à notre service. Mais lorsque je prie, je suis au service de Dieu. Parfois, on a du mal. Et on se dit, « Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne m'exauces pas ?» Et puis, on y passe du temps. Et la réponse de Dieu, c'est de dire, « C'est parce que je ne veux pas t'exaucer que je ne le fais pas. Ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que ce n'est pas ce qu'il y a dans mon plan, ce n'est pas ce qui est bon pour toi. Ce n'est pas ce qui est utile pour toi. C'est tout simplement pas le moment. » On peut demander pour satisfaire nos passions. On peut. Même des passions ou des volontés qui sont tout à fait bonnes et tout à fait légitimes, mais qui pourtant n'entrent pas dans le plan de Dieu. Alors, de grâce, lorsque nous prions, demandons-nous ce que Dieu veut que nous demandions. On fait beaucoup de demandes. Réfléchissons à ce que Dieu veut que nous demandions. En sachant que les besoins de Dieu, ils sont comme les nôtres. Ils changent à peu près tous les jours. Parce que Dieu est une personne. Parce que les besoins de son œuvre sur la terre changent et ils évoluent. Alors, Seigneur, voilà, je vais dans ma chambre, je ferme la porte conformément à ce que tu m'as écrit, à ce que tu m'as enseigné, pardon. Maintenant, montre-moi. S'il te plaît, je vais me tenir devant toi, je vais me tenir devant ta face. Montre-moi quels sont les sujets que tu as sur le cœur. Éclaire-moi. Je vais prier, comme j'en ai l'habitude, mais que ton esprit, s'il te plaît, me montre ce qui est prédominant aujourd'hui. Ce qui est important pour toi aujourd'hui. S'il te plaît. Ainsi, Peut-être que certains pans de notre vie de prière seront mis de côté pour la journée, mais d'autres seront accentués parce que l'Esprit de Dieu nous le fera sentir. Le Saint-Esprit prend ce qui est dans le cœur de Dieu et nous le communique. Le Saint-Esprit prend les besoins qu'il y a dans le cœur du Père et il fait de nous des intercesseurs. Ça change notre vie de prière, ça. Quand je l'ai découvert, ça a tout bouleversé. Ça a tout bouleversé. Je peux vous dire un secret, je m'ennuyais en priant. Ça vous choque ? Pourtant, c'était une réalité. J'avais l'impression d'être un catholique pentecôtiste, de réciter mon propre Notre Père. Ma brave ritournelle, vous savez, celle qui revenait tous les jours. Bien sûr, c'était élaboré, parce que je vais même vous dire un secret, je prêchais. Je connaissais ma Bible. Quand je l'ai découvert, toute ma vie de prière a changé. Tout d'un coup, les besoins du Père devenaient primordiaux. Et là, j'ai commencé à vivre de véritables exaucements. Des choses totalement inattendues. Et je me suis retrouvé à disposition de mon Dieu. Nous sommes au service de Dieu lorsque nous prions. Dieu n'est pas à notre service. Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté ? Dire Seigneur, sentir dans votre cœur que c'était ce sujet-là et pas un autre que le Seigneur attendait. Que c'était cette personne-là et pas une autre que le Seigneur attendait. J'aimerais toute ma vie, pour que je travaillais à Saint-Malo, je racontais mais c'est pas grave, je radote. Et lorsque je rentrais, plutôt que d'écouter la radio, je la coupais et puis je priais. Dans la voiture. Tout d'un coup, c'était ma belle-sœur qui m'est mise sur le cœur. Pourquoi ? Elle était en pleine forme, elle était en pleine santé, elle avait toujours nos 6 mots et caractères. Il n'y avait rien qui avait changé de particulier, ou du moins je ne le savais pas. Puis pendant tout le trajet, c'était une obsession. Prie pour Marika, prie pour Marika, prie pour Marika, prie pour Marika. Puis je devais aller chez mes beaux-parents. Et donc, je vais directement à Portique. Et là, ma belle-mère m'apprend qu'un cancer de la thyroïde a été diagnostiqué à ma belle-sœur qui avait combien, 22, 23 ans. J'ai compris pourquoi j'avais prié. Être disponible entre les mains de l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas à mon service, mon Dieu. Je ne veux pas prier selon mes passions. Je ne veux pas prier selon, j'allais dire, mes besoins charnels. Selon mes besoins du moment. Mais je veux m'occuper de tes besoins à toi, Seigneur. Qu'as-tu sur le cœur ? Qu'as-tu sur le cœur ? Vers l'autre point, jeudi prochain. En conclusion. Examinons notre cœur. Examinons notre vie de prière. Je le redis, non pas pour nous culpabiliser. Parce que quand il n'y a rien à trouver, il n'y a rien à trouver. Ce n'est pas la peine de s'inventer des problèmes là où il n'y en a pas. Mais vérifions et laissons-nous sonder par le Saint-Esprit de manière à vérifier que dans notre cœur, il n'y a pas eu premièrement d'indifférence. D'indifférence par rapport aux conseils ou aux directions que le Seigneur a pu nous donner. Peut-être nous a-t-il demandé un renoncement et nous n'avons toujours pas fait. Peut-être nous a-t-il demandé de changer d'attitude et nous ne l'avons toujours pas fait. Auquel cas, il peut y avoir comme un blocage, comme une différence, comme une distance entre lui et nous. Peut-être avons-nous manifesté de l'indifférence vis-à-vis d'autrui et nous sommes-nous centrés profondément sur nous-mêmes, en oubliant qu'autour de nous, des hommes et des femmes avaient besoin que l'on joue le rôle de Jésus sur cette terre. Posons-nous la question. Peut-être que le Saint-Esprit éclairera une situation. Auquel cas, demandons pardon. Hein. Le trône de la grâce est encore accessible, la croix également, et on a un Dieu qui nous pardonne. Et la situation sera réglée, nous serons non seulement pardonnés, mais encore justifiés. Deuxièmement, demandons-nous si nous n'aurions pas intérêt à nourrir notre vie de prière un peu plus des besoins de Dieu, plutôt que de nos propres besoins, et ainsi que nous puissions éviter de prier selon nos propres passions, mais vraiment que nous occupions de la passion de Dieu, des préoccupations de Dieu. Alors que son nom soit béni et glorifié, et que ces quelques enseignements puissent nous servir à faire des progrès avec lui, que son nom soit béni. Amen.